expérience immersive du SATFest à la Société des arts technologiques jusqu'au 28 février. Les meilleurs courts-métrages 360 degrés réalisés par des artistes d'avant-garde à travers le monde. Découvrez le programme sur sat.qc.ca.
Les apatrides anonymes, c'est Mathieu, Marie-Ève et Simon qui sont avec vous pour discuter immigration, paranoïa sécuritaire et racisme, des actualités locales
et internationales, des capsules humoristiques et des coups de gueule, des invités, des reportages, des grands dossiers, un agenda antiraciste
et même une minute coloniale. Les apatrides anonymes sur choc.ca, c'est votre antidote contre les discours populistes et la montée de la droite identitaire.
TD présente les concerts Nuit d'Afrique à l'année, une série de 4 concerts en février. Ne manquez pas le grand retour de la sensation malienne Fatoumata Diawara, la diva à la voix irrésistible, sera le 23 février au National. La soirée Nuit d'Afrique Sound System avec World Wild Sound System et Analog Africa pour première au Canada le 29 février au ministère. Infos et billets disponibles sur productionsnuitdafrique.com. Les productions Nuit d'Afrique vous invitent à la plus grande vitrine des musiques du monde à Montréal, les Silidars de la musique du monde. Venez découvrir 36 groupes tous les mardis et mercredis au club Balatou jusqu'au 16 avril. Participez au concert vitrine gratuit et votez pour vos artistes coup de cœur. La 14e édition des Silidars de la musique du monde à découvrir sur silidars.com, Facebook et Instagram.
Wadadadang, ici Robert Nelson de À la claire ensemble sur les ondes de choc.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Pop en Stock. En fait, je vais y aller pas mal rapidement pour les introductions parce qu'on a seulement une heure. C'est le genre de truc qu'on va, je pense, être capable de combler amplement dans l'espace de cette heure-là. Donc, je vous présente très rapidement, très succinctement, Gabriel Tremblay-Godette. Salut.
Salut.
Comment ça va?
Bien, toi?
Super. T'as fait ta maîtrise au Watchmen?
C'est exact.
Exactement. Et Simon Lapérière.
Bonjour Jean-Michel.
Ça va?
Oui, ça va.
On va parler de Watchmen aujourd'hui. C'est ça l'affaire, c'est parce que je voulais faire l'introduction super rapidement parce que on va s'ostiner en masse. Je veux aussi aviser tout le monde que ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc, il va y avoir une façon un peu informelle d'approcher. Pour les gens qui sont habitués à écouter Pop en Stock, normalement, on a comme un espèce de tour de parole et un grand respect par rapport à l'autre. Puis je pense que ça va un peu prendre le bord. Fait que je veux juste vous aviser que si vous avez l'impression qu'on va se battre en ondes, ça arrivera pas. C'est juste notre tempérament naturel quand on débat sur des idées.
Ce seront des conversations peut-être corrosives, mais dans une franche camaraderie.
C'est ça. Moi, je veux juste aviser les gens pour pas qu'ils fassent comme « Hey, il faut que j'arrête d'écouter cette affaire-là parce qu'ils vont se pitcher des chaises. » Je vous avise, on va se pitcher des chaises.
Ce sera pas plus l'inverse qui pourrait arriver?
Qu'on va pas? Quoi?
Ben, si on commence justement à se battre en ondes, ça peut intéresser certains auditeurs. On va peut-être avoir un nouveau public.
Ça serait un épisode très mémorable, en effet.
Ouais, t'as raison. Je voudrais juste pas qu'on mène avec ça, advenant que ça arrive pas, les gens soient déçus, et ainsi de suite. Regarde, advienne que pourra. Si on a à se battre en studio, on va le faire.
C'est ça, on veut pas que Pop en Stock devienne les débats de Gérard, donc on va se...
Malgré que ça serait assez fou qu'on commence à devenir l'espèce de... Bonjour et bienvenue à votre balado hebdomadaire où on parle de culture pop puis on se met des tartes sur le visage.
Ça dégénère toujours en bagarre.
Ça serait quand même... Non, je pense pas que ce serait désagréable. Ou agréable. Non, je pense pas que ce serait agréable. Je pense pas que ce serait quelque chose d'envisageable. Bon, on va parler de Watchmen. Gab, t'as fait ta maîtrise là-dessus. T'es la personne la plus... indélogeable et irascible par rapport à Watchmen. Simon, t'as fait beaucoup de travail par rapport à Damon Lindelof autour de Leftovers, notamment, ce qui fait que t'as une profonde admiration pour ce qui s'est passé dans la télésérie. Et moi, parce que j'anime, j'ai le privilège de pouvoir un peu me retirer et de vous informer de ma posture par rapport à tout ça au cours de l'émission. Donc, Watchmen, très, très facilement, c'est une télésérie qui a été produite par HBO, qui est sortie l'an dernier. En fait, c'est un 9 épisodes qui utilise la bande dessinée de Alan Moore et Dave Gibbons comme tremplin de départ, mais qui, dès les premières minutes, notamment dans la représentation et l'illustration de la tuerie à Tulsa en 1921, nous montre qu'on s'en va dans une dans un univers totalement différent. Les seules choses qu'on savait avant ça, c'est une lettre qui avait été publiée par Damon Lindelof qui disait essentiellement qu'il respectait immensément le matériel d'origine d'Alan Moore, mais qu'il faisait ça dans un esprit de...
réappropriation.
Réappropriation, mais aussi dans un esprit très sensible par rapport à quelque chose qu'il vivait avec son père, avec la bande dessinée, le fait que ces comics-là, quand ils sortaient de manière mensuelle, parce qu'on a tendance à dire que Watchmen est un graphic novel, mais il l'est pas, il a été publié en fascicule individuel à tous les mois. Ben, Lindelof dit, c'est un projet que je fais parce que je me rappelle d'avoir lu ces fascicules-là avec mon père et tout, puis c'est... On ne peut pas nier le fait qu'il y a une importance symbolique et émotive par rapport à son adaptation. Mais c'est à peu près tout.
Et tu apportes un point intéressant par rapport justement à la lecture mensuelle de la série originale, parce que un aspect de Watchmen qui m'a énormément frappé, c'est que alors qu'on est dans la culture du streaming et du binge-watching, j'étais heureux de voir Watchmen hebdomadairement, ne serait-ce parce qu'il y avait du stock à digérer. Une fois qu'un épisode se terminait, j'avais souvent envie de prendre mes idées en note, de digérer ce qui m'avait été donné à voir, et j'aurais pas été prêt à sauter sur le champ à un autre épisode. Et de cette façon, je considère qu'il y a un élément un peu pas tant que j'allais dire contre-culturel, mais plus à contre-courant par rapport à la façon avec laquelle la télévision de grande écoute produite par les grands studios, Netflix, HBO, se présente à nous. Et on retrouve ça un peu actuellement. Là, on fera un autre pop en stock sur cette très belle série-là, The Outsider, qui est aussi produite par HBO, que là aussi, je pense pas que j'aurais la concentration pour pouvoir me taper 8 épisodes en ligne, alors que si je me tourne vers Mindhunters, qui est aussi une série très mature, mais qui est produite par Netflix, ça se fait avec de façon très agréable.
Ouais, mais c'est effectivement le cas qu'il y a comme eu une espèce de variation par rapport à l'univers du binge-watching.
Mais ça, en fait, ce qui est commun des séries que tu as nommées, Simon, c'est justement c'est qu'ils sont sur HBO. Et ouais, ça, ce phénomène-là, justement, il a été possible avec Game of Thrones également. Mm-hmm. Donc là, et moi, je suis. Bien que moi, je l'ai regardé en rafale en deux fois. J'attendais que la série soit sortie au complet parce que l'automne dernier, j'avais pas le temps de la regarder. Donc j'ai regardé en 5 épisodes et ensuite, je l'ai terminé en début de semaine. Il y avait quand même un côté qui pouvait être le fun, comme il y a beaucoup d'éléments, donc de le voir de manière rapprochée puis pouvoir faire les liens, mm-hmm, c'était quand même pratique. Mais l'effet d'attente et de culmination, j'avais des étudiants de maîtrise qui ont très hâte d'entendre le podcast pour avoir mon opinion parce qu'ils voulaient en parler toute la session, puis je leur ai dit non, je l'ai pas vu encore, puis je veux pas que vous me spoiliez rien. Mais eux, là, c'était vraiment, je voyais comment c'était un effet là, presque religieux.
Ben d'ailleurs, on va parler de notre âge, mais nous, on n'a pas eu la lecture que Lindelof a eu de Watchmen. Moi, j'ai acheté l'édition roman graphique, ouais, et je l'ai lu peut-être en 3 jours, quelque chose comme ça. Donc, j'ai pas été dans l'attente
du
prochain numéro. Donc, j'imagine que ma réception était différente.
Oui, mais ça n'a pas d'incidence au final sur l'écoute qu'on a. Comme que tu lises Watchmen, c'est sûr que ça peut être intéressant de l'avoir lu comme ça à l'époque, mais quand moi je l'ai lu, et je l'ai lu donc une demi-douzaine de fois, au moins, de l'avoir en intégrale, il y avait un côté qui était pratique aussi, parce qu'il y a encore une fois cette question de densité-là, puis de pouvoir faire des liens, tourner les pages. Ouais. Je tiens d'ailleurs à préciser juste une chose sur la posture que j'adopte et que j'ai adoptée en regardant la série. Évidemment, comme j'ai fait mon mémoire dessus, je considère que Watchmen, c'est comme imposé à moi. Je voulais travailler sur la bande dessinée. J'avais entendu dire que Watchmen, c'est un classique. J'avais pas trop envie de la lire. C'était pas du tout dans ça que j'étais à ce moment-là. Et quand je suis tombé là-dessus, moi, je l'ai lu justement là, comme le cas de tu l'ouvres à 10h le soir, tu finis de lire à 4h du matin. J'étais comme, mon Dieu, quel chef-d'œuvre. Mais pour moi, en fait, il n'y a pas... j'ai regardé la série en voulant aimer ça autant que possible, en donnant le plus de chances possible et en me disant, il n'y a pas de concours. quand il y a une adaptation, là, évidemment, il y a une confrontation entre la lecture qu'on peut avoir fait, donc ce qu'on a construit à partir de l'œuvre, et la vision de quelqu'un d'autre qui va presque systématiquement être inférieure quand elle veut faire preuve de fidélité. Et ce qui m'a choqué d'ailleurs, et moi je trouve que les adaptations les plus intéressantes sont celles qui vont prendre des libertés, vont déroger à l'œuvre originale pour se permettre d'être créatif. Là où j'ai eu de la misère avec le film de Snyder, c'est que c'était très fidèle dans le sens que c'est presque, la bande dessinée devient un storyboard pour la filmographie. Les ajouts sont essentiellement de mettre énormément de violence, du gore pratiquement, et bon, le remplacement du squid à la fin, mais ouais. Je veux pas entrer trop là-dedans. Ce que je voudrais dire par contre donc, c'est que j'ai pas de rapport affectif qui est venu teinter mon écoute de Watchmen, aussi dans la mesure où l'espèce de rapport défensif qu'on peut avoir par rapport à notre œuvre quand on se fait adapter par quelqu'un d'autre, souviens-moi d'une espèce de considération un peu hipster de j'aimais cette œuvre-là avant qu'elle soit populaire, puis là, vous l'embarquez toute. Je veux dire, Watchmen, c'est pas une œuvre niche, là. C'est non, un des classiques de la bande dessinée américaine.
Tu peux pas avoir cette attitude-là en disant je la connaissais avant tout le monde. Non. Là, vous l'avez toute souillée, là. Ouais.
Et non. Là, moi, il y avait une question qui était justement est-ce que, évidemment, j'étais sensible à savoir. Est-ce que les créateurs de la série auront fait une lecture que je juge satisfaisante, disons, dans la bande dessinée? Sur ce point-là, je dirais oui, dans la mesure où il y a énormément, ça j'en parlais, mais il y a énormément de reprises d'éléments de l'œuvre originale. Là où, là, pour annoncer mes couleurs, là où j'ai dérogé un peu, c'est vraiment que la compréhension des personnages, comment moi j'avais coproduit les personnages dans leur vie interne et leur intentionnalité dans la bande dessinée, et le prolongement qu'on en a fait dans la série, ça, j'ai été plutôt dubitatif.
Ouais, mais en fait, ils en ont prolongé deux. Moi, je pense que c'est une des forces de cette adaptation-là, c'est d'avoir fait des copies, essentiellement, tu sais, comme Rorschach qui est pas présent, mais le personnage de
Looking Glass.
Merci beaucoup, je l'appelais Mirror Master, à quel point est-ce que mon dessin est bien ancré. Tu sais, Looking Glass est
actualisation de
exactement, ça fait que ça faisait en sorte que Sister Knight me causait pas tant de problèmes parce que elle continuait la tradition de Silk Spectre comme
non, mais c'est ce qu'ils ont fait ben avec le retour de Silk Spectre.
Ouais, quand elle revient, ça brouille un peu.
Ouais,
et ou elle a continué peut-être plus Night Owl d'abord. Excuse-moi.
Oui, mais je pense pas que la série opère dans une dynamique comme ça. Je pense qu'elle fait faussement. C'est qu'au départ, on croit que Looking Glass va être le successeur de Rorschach pour finalement se rendre compte que c'est un personnage qui est très bien, qui se définit très bien par lui-même.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est bien dit.
Ben oui, sauf qu'il y a quand même un peu. C'est ça. Moi, je pense que dans la série, les reprises prennent deux formes, soit des rimes, soit des échos. C'est-à-dire que parfois, c'est carrément de la rime parce qu'on a la répétition de la même chose. Et là, ça, c'est un peu plus des clins d'œil pratiquement aux grands, grands fans de la bande dessinée. Et il y a des échos qui sont donc une espèce de. On entend quelque chose qui n'est pas exactement la même chose. Donc, Rorschach, lui, c'est quelqu'un de très radical qui se cachait derrière son masque et qui donc se révélait pas au public, qui avait en fait une vision du monde très lucide, mais qui est considéré à la fin comme étant conspirationniste. Et en ça, Looking Glass, qui est aussi un paria, un type un peu sale qui vit dans son coin, qui s'est comme coupé du monde, qui garde constamment son masque, qui a l'impression qu'il détient la vérité, comme le faisait Rorschach, qui est absolument paranoïaque, mais qui entretient une vision de « on me cache quelque chose » et qui s'avère avoir raison. Je veux dire, on est vraiment dans la reprise.
Oui, mais c'est aussi un personnage qui a été rattrapé par le système, qui travaille pour l'État. Donc,
Il s'en diffère suffisamment.
On est vraiment plus dans la différence, mais aussi dans la réactualisation de la bande dessinée. C'est là où, par rapport, si on veut, au passé narratif, l'équipe de scénaristes, c'est ça, je veux vraiment mettre l'emphase là-dessus, que la série n'est pas que le produit de l'imaginaire de Lindelof. Il y a vraiment, et lui-même a insisté là-dessus, sur le travail très, très collectif. C'est une série qui s'est écrite à plusieurs mains. C'est même une des rares fois de mémoire où le showrunner tente pas de prendre tout le crédit sur ce qu'on a pu voir à l'écran. Lindelof a été très inclusif par rapport à la participation des autres scénaristes. Ouais. Et Ben là où je voulais en venir à ça, c'est que en prenant des libertés par rapport aux origines des Minutemen, par exemple, qui sont pas particulièrement dérangeante, à moins vraiment de jouer du côté de ce n'est pas fidèle à ça, non, Hood of Justice n'était pas noir. En fait, c'est même intéressant que c'est la réflexion sur la mémoire culturelle qui est intéressante. Puis là, ça devient intéressant quand on adapte un classique de la bande dessinée, qu'au sein même d'une adaptation, on questionne le processus d'adaptation.
Oui, et puis même dans le cas de Hooded Justice, je trouvais qu'il y avait, il y avait une belle symétrie dans l'idée que le personnage, parce qu'on l'a toujours entrevu comme caucasien par le trou des yeux de sa cagoule, et on voit dans la télésérie qu'il devait maquiller cette partie-là de son visage pour passer pour blanc quand en fait il était afro-américain. Et Sister fait l'inverse,
ouais,
en fait.
Ça, c'est une des belles. C'est une symétrie là-dedans.
C'est superbe. Ouais. C'est des genres de détails, mais c'est ça. Je trouve super beau ce que tu dis par rapport aux échos puis par rapport aux rimes.
Puis un point par rapport à la réflexion sur Hooded Justice qui est absolument fascinant, c'est que l'histoire officielle garde en tête qu'il est homosexuel, mais cache le fait qu'il est afro-américain.
Oh, oui.
Et là, ça, c'est absolument brillant comme commentaire, justement, sur comment les faits historiques sont racontés par le discours dominant.
Puis le fait qu'il y ait un nœud coulant autour du cou, le rappel par rapport au Strange Fruit, le rappel aussi de... C'est drôle parce que récemment, dans les 15 dernières années, tu sais, des trucs comme Captain America Truth détermine que le premier Captain America était noir, le projet de Steve Rogers, c'est le troisième. Tu sais, il y a de plus en plus de ces idées-là que les premiers héros, John Henry Irons, qui a été repris pour devenir Steel, les premiers héros aux États-Unis sont des Afro-Américains, puis Watchmen n'y échappe pas. Ça, c'est de toute la télésérie, c'est la seule idée que je suis convaincu que Moore, autant qu'il défend son idée originale, serait d'accord avec.
Oui,
c'est la seule que je verrais qui fait « Ah, ça, c'était pas pire. Merci d'avoir pensé à ça. »
Et je pense en plus qu'un des ajouts très importants que fait la série, disons, là, comme le choix de prolonger l'univers de Watchmen, qui peut être un peu curieux.
Et qui n'est pas la première fois que c'est fait, rappelons-le.
Oui, parce qu'il y a la série comique Before Watchmen.
Qui...
Ouais, mais ça, c'est un prequel, donc ça
va
pas modifier.
Ouais, mais ça vient aussi apporter des nouveaux éclairages. Moi, je l'ai pas lu au complet, ce que je me souviens de Before Watchmen, qui, à moins que je me trompe, a eu aucune influence sur le Watchmen qu'on a vu à la télévision.
Le seul que je verrais, on en parlait tantôt, c'est cette idée-là que le 8e épisode, A God Walks Into a Bar, est formellement monté de la même manière que le Dr. Manhattan de Straczynski.
D'accord.
Cette idée-là de sauter dans le temps puis de d'exister.
Non, mais le quatrième chapitre de la bande dessinée est fait comme ça aussi.
Ouais, mais en termes de comme. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a de la compte.
Quand il est sur Mars puis qu'il se souvient.
Oui, c'est conversation, où il est partout en même temps.
C'est un monologue interne, mais il dit, il y a ce jeu-là de comme. En ce moment, je suis sur Mars, mais je suis aussi 20 minutes plus tôt. Ah ouais. Donc, oui, c'est vraiment
effectivement,
le modèle, l'espèce de narration omnisciente, omnipotente et d'ubiquité temporelle, c'est vraiment repris de la bande dessinée dans le monde.
En fait, peut-être là où il y a le parallèle est intéressant avec Before Watchmen, puis là, parlons pas de Doomsday Clock parce que là, on est pas sorti de l'auberge. C'est que quand tu lisais Before Watchmen, à la fois, ça peut être agréable de retrouver les personnages et dans les faits, moi, j'avais lu la série sur Rorschach, qui pas désagréable, non, ça se lit bien, mais tu sens une absence totale d'audace, où là, il n'y a pas de travail de réappropriation. C'est vraiment la question, comment est-ce que, parce que Watchmen est ce chef-d'œuvre de la bande dessinée, on peut s'intégrer entre les cases sans rien froisser.
C'est très vrai.
Alors que Little Love, d'emblée, dès le premier épisode, c'est table rase.
Ouais.
Voici ce que je veux faire.
Pas exactement, parce que ce qu'il fait dès le premier épisode, c'est de dire il va avoir une thématique de la question raciale qui va être un gros ajout parce que c'est quelque chose qui est à peu près pas abordé dans la bande dessinée originale. Mais rapidement, en fait, il y a cette insertion-là et la reprise de toute la prémisse narrative de la série, c'est aussi les événements qui sont déroulés dans la bande dessinée. Une question que je me suis posée en regardant la série, et que là, évidemment, je pouvais pas faire parce que je connais trop bien la bande dessinée, c'est comment tu fais pour comprendre ce qui se passe quand t'as pas, ouais, quand t'as pas lu la bande dessinée.
Aucune idée.
Ouais.
J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée comment c'est la meilleure question que tu peux poser. Je comprends pas comment ça se fait que c'est le succès que ça a été. J'ai aucune idée comment est-ce que c'est la télésérie la plus écoutée en 2019. Ça me dépasse.
C'est la seconde fois qu'on m'invite à parler de cette série-là. La première fois, j'étais à une chaîne pas concurrente, mais disons, parallèle. Plus on est de fou, plus on lit.
T'as le droit de dire Radio-Canada, à chaque, c'est correct.
C'est pas... bon, on peut parler de, on peut faire l'inverse aussi.
Absolument.
J'étais avec une femme qui connaissait pas la bande dessinée.
Ben oui.
Et alors, déjà moi, qui connais la BD, mais qui l'avait lu il y a très longtemps, j'ai pas la même proximité avec cette œuvre-là que toi, Gabriel. On avait vu que les deux premiers épisodes, c'était ceux-là qu'on devait commenter, et on était dans un immense « what the fuck » qu'on vient de voir.
Ouais.
Ça, on peut pas dire ça, Radio-Can, « what the fuck ».
Ouf!
Il
y a des places qui le permettent plus
et
que
mais une fois l'enregistrement terminé, ma co-animatrice se retourne vers moi pour me dire « OK, là, toi, tu connais la BD, c'est qui le gars bleu ?» Et là, je fais « oh boy, comment peux-tu suivre ?»
Ah,
comment
ça
peux-tu comprendre
mais ça a captivé quand même. Ça, c'est un phénomène extraordinaire que t'es retiré du matériel d'origine et les gens embarquent tout de même.
Mais je me demande s'il n'y a pas eu un genre d'immense phénomène de lecture où soudainement, après le premier épisode, le public, curieux d'en savoir plus, s'est précipité vers les bibliothèques puis les librairies pour relire ou lire pour la première fois Watchmen. Est-ce qu'on a des
j'ai pas
des chiffres?
Là, tu poses une question à laquelle j'ai pas la réponse, à toi non plus, donc je peux pas commenter.
Mais ça remonte tout le temps d'invente. À chaque fois qu'il y a une adaptation, ça remonte.
Mais je pense que, en fait, il y a des gens qui l'ont regardé en disant « on va m'expliquer plus tard ». Mais reste quand même que moi, je vois mal comment on peut apprécié une série comme ça. Je pense que, en fait, une des choses qui peut te faire rester, c'est l'effet HBO. C'est une série qui est formidablement bien produite sur le plan technique, visuel, formel. C'est assez extraordinaire. On a quand même assez... même en connaissant la série, en connaissant la bande dessinée, il y a des énigmes. En fait, le parallèle entre l'œuvre originale et la série vient aussi du fait que ça commence par un meurtre irrésolu et qu'il va avoir une enquête. Donc ça, c'est quand même un des fils narratifs qui relie les deux œuvres. Donc...
Je vais te laisser compléter ton idée.
Mais là où, en fait, je pense que là où principalement j'ai trouvé que le parallèle entre les deux, ça souffre la comparaison vraiment, c'est que pour moi, une des grandes réussites de Watchmen, c'est, et ça a toujours été, son extraordinaire cohérence narrative, le fait que c'est absolument étanche.
Ouais.
C'est super intriqué, là, je veux dire. Mm-hmm. À chaque case contient des détails qui vont avoir une signification ultérieure, mais il y a aussi le fait que c'est un vaste complot, très complexe, mais où tout tient en place. Donc, il y a une espèce de cohérence logique derrière ces actions-là qui pourrait être vraiment mise à l'épreuve. Et moi, en le relisant, il y a un moment où, après 2-3 fois, tu dis « je vais essayer de chercher des bébites », et j'étais comme « j'en trouve pas beaucoup ». En fait, étonnamment, ce que j'ai trouvé, c'est que l'adaptation en film m'a fait réaliser comment les dialogues sont un peu boursouflés ou grandiloquents.
Mais ils sont comic book.
Son comic book, à l'écran, c'est un peu bizarre.
Oui, exactement.
Justement, c'est là que je me suis dit, c'est peut-être là que quand la série a commencé et que je voyais qu'on mettait en place quelque chose d'aussi complexe, je me suis dit, là, on a vraiment voulu aller jusque-là. Je comprends toujours pas comment Alan Moore, à travers d'autres projets, tu sais, qui a pas mis 10 ans de planification à faire ça, a réussi à faire quelque chose d'aussi triqué.
Mm-hmm.
Mais c'est ce que la série a essayé de faire, et selon moi, là où elle a pas réussi, parce qu'il y a des gros, gros, gros problèmes de cohérence logique dans la série. Et ça m'a fait penser à l'anecdote de... dans les années 50, je dirais, Jerry Lewis et Chuck Berry, qui étaient deux des grands artistes rock de l'époque, de la culture, de la musique populaire, faisaient des concerts, et pendant leur tournée, ils alternaient, en fait, qui allait être le premier nom sur le marquee, qui allait ouvrir pour l'autre. Et Jerry Lewis était très insulté de passer après Chuck Berry à certains moments. Et la légende veut que c'est lors d'une de ses prestations-là où il était en première partie, qui a fait pour la première fois son stunt de mettre le feu à son piano et continuer à jouer pendant qu'il faisait Great Balls of Fire. Et une fois qu'il a fini la chanson, il a quitté la scène et a regardé les gens en disant « Let's see how he's gonna follow that. »
Ouais.
Et il y a un côté où je me suis dit justement, ben là, la série, le problème que toute œuvre qui va chercher à s'inscrire dans le prolongement de Watchmen va avoir, c'est d'être tenu à ce niveau de rigueur-là narrative. Et Où c'est ça, et je dirais que franchement la série réussit à peu près là, à 82%
bon,
à,
atteindre le niveau,
à atteindre le niveau, c'est mais il y a un côté où c'est comme oui mais quand il y a les trous dans le récit ça fait vraiment mal parce que c'était là qu'était la grosse qualité.
82% d'Alan Moore c'est une bonne affaire,
c'est
quand
bonne
même
moyenne. Ouais, ouais, mais justement c'est que les, ce qu'on pourrait appeler des, moi j'appellerais plus ça des sortes de trous dans la narration pour peut-être mieux les appréhender, c'est qu'il faut considérer Watchmen non pas comme la suite de la BD, mais comme la suite de la série de Leftovers, qui baigne justement dans ce qui peut paraître être des incohérences, ce qui est en plein de mystères, qui met en scène des personnages qui cherchent à comprendre un événement qui les dépasse. Donc, ça fait sens que Lindelof et son équipe se tournent vers une série qui est ancrée dans l'idée du complot. Où, on passe dans The Leftovers, un mystère divinatoire, si on peut l'appeler comme ça, vers la conspiration, la science-fiction et surtout la conspiration. Ça fait énormément de sens. Mais l'auteur a toujours été fasciné justement par ce qui nous échappe. Et donc, de ce point de vue-là, je considère que Watchmen est très cohérent dans ce à quoi Lindelof nous a donné à voir.
Oui, et ça, je veux bien qu'il y ait une cohérence thématique entre son corpus précédent. Sauf que là, le problème avec Watchmen, c'est que ça s'appelle pas Watchmen 2. Kind of a follow-up to The Leftovers. Ça s'appelle Watchmen. Donc, et la filiation, elle est narrative.
Ouais, mais...
Et c'est là, et la force... Ouais. Oh, ben oui, non, mais regarde,
ouais,
Simon, là, ça s'appelle Watchmen.
Ouais,
pas,
non, je suis d'accord.
C'est eux qui ont demandé qui est la filiation. Je suis d'accord avec toi. Je n'ai pas vu The Leftovers, tu m'en as suffisamment parlé pour que... Et j'ai assez apprécié la série pour me dire, j'ai envie maintenant de regarder The Leftovers. Mais... dire ouais mais les trous qu'il y a dans le récit dans la série Watchmen ça se comprend bien quand on regarde The Leftovers, c'est un peu faire un drôle d'argument considérant que là le point de comparaison je le rappelle c'est la BD Watchmen.
Ben,
dont on
c'est
reprend
là où je suis pas
éléments.
D'accord dans ta lecture parce que moi ma comparaison se fait avec The Leftovers et Lost. Parce que comme y a un très bon critique a écrit sur pas contre seulement qui a écrit un très beau livre sur The Leftovers, vraiment un chef-d'œuvre d'écriture téléphilique si on peut appeler ça comme ça. Lost c'est la leçon, The Leftovers c'est la pratique. The Watchmen maintenant qu'est-ce que c'est? Je pense qu'il faut vraiment réfléchir à Watchmen à la lumière. Des œuvres antérieures de télévisuelles en tout cas télévisuelles on s'entend parce que Lindelof si on se tourne du coup en fait ce qui est intéressant aussi de Lindelof c'est que ces scénarios de films de longs métrages bon j'imagine que pour la plupart c'est des commandes mais c'est pas mal du côté de la catastrophe
c'est ça c'est lui le seul qui me vient à l'esprit c'est Prometheus j'ai rien d'autre c'est drôle
ouais, puis bon
mais ça, tu le dis très bien puis c'est ça moi je suis un peu tombant dans l'optique que pour moi Watchmen aurait été impossible s'il avait pas fait ses downs, s'il n'était pas pratiqué par rapport à Leftovers. Lost, je suis encore du camp qui met Lost à, tu sais, que ça appartient à J.J. Abrams. Fait que c'est, tu sais, les tics de Lost, le non résolu, les boîtes, toutes les magic boxes, tout, ça, c'est, pour moi, c'est du J.J. Abrams. Mais, la seule façon, moi, que j'ai trouvé de créer une filiation entre l'œuvre de Moore & Gibbon et celle de Lindelof et compagnie, c'est dans le climat politique.
Ah oui.
Puis c'est un des trucs que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui n'a pas été vraiment soulevé. C'est la, autant que Watchmen était une critique par rapport à Nixon, par rapport à Reagan, par rapport, mais moins Reagan et Thatcher, mais beaucoup plus par rapport à Nixon et la corruption politique autour de la guerre du Vietnam, l'inquiétude autour de le Doomsday Clock, là, l'oblitération, le Mutually Assured Destruction, comme qu'il l'appelle. Je ne sais pas si ça a passé sous le radar la majorité des gens, mais pour moi, le 9e épisode était une critique massive par rapport à la surveillance des données et la Chine, notamment par le fait que le personnage de Lady Trieu, qui est, bon... Un personnage qui s'avéra être extrêmement importante dans la conclusion un peu de la catastrophe où ils ont emprisonné Doc Manhattan puis tout. Puis là, t'as la Cavalry qui se révèle être Cyclope, qui dit « on a la technologie pour capturer Dieu ». Et là, Trieu fait « Ah non, excuse, vous étiez en train de faire ma job pour moi, mais c'est l'Empire chinois qui va partir avec l'essence et les données qui seront soutirées de ce dieu. » Puis j'ai trouvé ça extrêmement ironique par rapport à la présence en ligne et les altérations des élections. Et là, c'est comme, c'est les empires qui disent, ah tiens, on va vous donner ça, ouais, ces petites machines-là aux fondamentalistes aux États-Unis, et vous allez, à coup de mauvaises critiques de Last Jedi, élire Trump pour nous autres.
Puis quand dans ce cas-là, dit, c'est Robert Redford.
Ben non, je ferais pas l'adéquation entre Redford et Trump, mais c'est juste que
c'est... Non, mais il y en a une dans mesure aussi, dans les deux cas, c'est des célébrités qui sont des présidents, ce sont plus des hommes politiques.
Mais Redford est tellement retiré de la Syrie que je peux pas y prêter des intentions. Moi, c'est vraiment qu'il y a un empire technologique qui rentre, puis qui dit, tout ce que j'avais besoin, c'est de vous donner l'impression que vous avez un peu de pouvoir.
Ouais, puis je viens récolter le résultat de ce que vous avez fait avant.
Pis ça, je pense pas que t'as le droit de dire ça en télévision américaine.
Ouf.
J'ai trouvé ça tellement à la fois explicite et subtile que j'étais comme, mais là, ils viennent vraiment de bâcher le data mining, la présence de TikTok, que TikTok est une plateforme qui vise les jeunes, qui va chercher les informations, tout ce qui s'est passé avec Huawei et toutes ces choses-là. J'étais comme, ah ah ah! Autant, à mon avis, que les gens qui ont terminé Watchmen à l'époque ont dû faire une espèce de ah ah! Assez solide par rapport à un ah ah, c'est une inquiétude masquée de rire. Mais moi, c'est la seule chose qui faisait vraiment la connexion, c'est l'abus de pouvoir politique et la communauté internationale qui s'auto-dévore.
Mais, et aussi le sentiment d'impuissance totale devant ce que le pouvoir est capable de faire. Moi, c'est ça qui m'avait frappé quand j'avais lu Watchmen à la fin, c'est qu'il se regroupe pour arrêter Ozymandias, et c'est Dr. Manhattan qui fait, ouais, en fait, il a raison.
Ouais, il y a beaucoup de,
faire grand chose. Et si on fait de quoi, ben, on va entraîner le chaos sur Terre.
C'est moins présent dans la série que ça. Non?
Ben, en fait, là, c'est juste que
tu penses?
Non, ouais, c'est ça. Mais dans la bande dessinée, en fait, la question du pouvoir politique est un peu subsumée par le fait que, justement, c'est Ozymandias qui fait sa conspiration pour dire, moi, c'est même pas que je vais avoir le pouvoir, c'est que je veux faire intervenir une force externe pour que le conflit soit interrompu. Donc, comme, il y a quelqu'un qui tire les ficelles et qui est plus important, devient en fait plus important que les Américains ou que les Russes, etc.
Ouais, c'est vrai.
Ce que tu dis, par contre, par rapport à justement ce jeu de pouvoir-là, est plus dans la lecture allégorique parce que les enjeux du politique, du pouvoir politique, sont beaucoup moins abordés dans la série. Le moment où ils foncent avec le sénateur Keane, qui ça là, était vraiment une piètre niaiserie, j'ai trouvé là. En fait, c'est que soudainement, dans l'épisode 5, à la fin, quand on voit donc l'espèce de question irrésolue qu'à la fin de la bande dessinée, donc ce fameux carnet de recherche qui est remis entre les mains d'un journaliste, et tu dis qu'est-ce qui va se passer si cette vérité-là voit le jour un jour. Et là, on découvre que le livre a été publié en tant que tel, mais que il semble un peu une espèce de petit livre cheap auto-publié qu'on peut commander sur Amazon pour 2$, qui est lu par des gens qui sont des illuminés, mais qu'en fait ces illuminés-là, donc c'est les membres de la 7e cavalerie qui croient en Rorschach. Et là, ce qui explique un peu plus pourquoi ces gens-là s'identifient à Rorschach, parce que là j'avais un problème de, il y a pas grand-chose dans le personnage tel qu'on l'a vu dans la bande dessinée qui en ferait quelqu'un d'extrême droite comme ça. Ça, j'avais trouvé ça un peu troublant, mais là le fait de voir que il adhère à sa vérité à lui, à sa théorie du complot, à ce moment je me suis dit, wow, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire sur le complot, la conspiration et les gens qui y croient un peu comme, tu sais, à la Alex Jones, etc. Ça venait d'arriver en disant, waouh, là, il va y avoir quelque chose d'intéressant dans la série qui va justement se dégager de ce qui est dans la bande dessinée. Et là, tout de suite après, arrive le personnage du sénateur Keane qui enlève son masque en disant, ouais, moi, j'essaie de me faire élire président des États-Unis, mais dans mes temps libres, je fais partie de cette gang-là. Ils me reconnaissent pas parce que des raisons, genre, ils reconnaissent pas ma voix. J'ai beau faire une campagne aux quatre points du pays, j'ai le temps de revenir à Tulsa pour m'occuper d'eux tout le temps. Ça, là, j'étais vraiment comme, hey, là, tu me demandes d'avaler des couleuvres, là. What in the actual fuck, là? Ça, c'était vraiment, c'est un des deux moments où j'ai fait, hey, là, vous venez de l'échapper. Parce que vous aviez une thématique super brillante, et là, vous avez un problème de cohérence narrative qui est monumental.
J'étais un peu déçu quand, plus on avance vers la fin de la saison, plus la 7e cavalerie est de plus en plus en retrait. Elle occupe de moins en moins d'importance. Ça peut être intéressant de faire, ben, finalement, ces anarchistes-là jouent un rôle très, très, beaucoup moins important que ce qu'eux-mêmes croient. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une certaine absence de véritable résolution par rapport à eux, ne serait-ce que il doit avoir d'autres membres encore en activité une fois la
ben, il éclate tout dans la cabine. Là.
Ben, il y en aurait pas d'autres, je veux dire.
Mais il était, si c'est le cas, il était moins nombreux qu'on aurait pu l'imaginer.
Ce qui fonctionne encore avec la métaphore politique, les certains trolls et influenceurs de la alt-right sont capables d'arrêter.
Ben, si on pense au FLQ, qui donnait l'impression. Non, mais
ben
je peux
oui,
pas dire. Non, mais dans la mesure où le FLQ voulait donner l'impression qu'ils étaient excessivement nombreux, mais que finalement, ils ne l'étaient pas.
Anonymous, une poignée de gens.
Absolument. C'est là où je voulais en venir. Non, je veux pas faire le parallèle.
Non, mais je trouvais ça vraiment. J'étais comme, ouf, cette porte est grande ouverte. Bienvenue.
Si Watchmen se passe au Québec dans les années 70,
on ne peut que rêver.
Et ça, c'est une chose aussi que. La comparaison, évidemment, là, que. En fait, j'ai eu de la misère en regardant la série en me disant il y a quelque chose qui est très débalancé en termes aussi d'importance narrative. Comme on sent qu'il y a des épisodes qui se consacrent plus précisément à un personnage plutôt que l'autre. Ce qui fait en sorte que justement, moi, Looking Glass, que j'ai trouvé qui était une des forces de la série, à partir du 5e épisode, on ne le revoit pas, ou à peu près pas, juste qu'on avait un épisode où il fait de la figuration puis des choses un peu étranges, disons. Et. Alors que la bande dessinée, il y a un peu ça aussi, de consacrer plus d'importance à chaque personnage lors de chaque numéro. Mais comme les numéros sont plus courts, qui font seulement 32 pages, et que la série télé, elle, a 9 épisodes, j'ai trouvé que, même si là, je la critique, je pense que cette série-là aurait mérité 12 épisodes.
Ah, c'est beau, ça.
Parce que il y a tellement de choses qui sont laissées en plan.
Tout à fait.
Que... Je sais pas, en fait, là, qu'est-ce qui explique là, le manque de budget venant de HBO. Ça m'est... Oh non, désolé, on a tout bossé sur les dragons de Game of Thrones. On avait tellement plus d'argent qu'il n'y avait pas d'ampoule dans le combat final. Là.
Ben, en fait, ça doit juste être carrément un problème de cases horaires où ils se disent, comme là, actuellement, bon, Watchmen, c'est terminé. Watchmen, ça jouait le dimanche, ça s'est terminé. Là, c'est The Outsider. Puis en avril, Westworld saison 3 débarque. Oh. Donc, je pense qu'ils doivent consolider tout ça.
Non, moi, je pense que HBO, ils peuvent vraiment faire.
Ben, je pense pas qu'ils auraient pu faire une série de 22 épisodes avec Watchmen.
Puis en même temps.
J'ai pas l'impression que ça aurait été viable. Là.
Je pense que c'est le genre de truc de comme on paper, là, quand on y pense, objectivement, là, on a vu produit fini, là. Mais tu présentes ça.
Il me semble que le
studio fait « Hey, tabarouette! »
On va peut-être juste en donner 9.
Exactement.
Ça aussi, c'est un point, c'est que pour connaître des gens qui travaillent sur des projets de télévision, c'est qu'on tu présentes ça en épisode.
Okay,
avec 15 épisodes, il y a bien des chances que les
surtout quand ton pitch, c'est ton elevator pitch, c'est genre, ça commence, on est dans Tulsa, tous les noirs vont se faire tirer.
Puis après ça, il va avoir des liens avec genre un événement qui s'est passé en 1985, mettant un extraterrestre qu'on verra pas avant l'épisode 5. Trust us, ça va bien aller.
Ouais. Ah, Damon Lindelof. Ouais, ok, c'est vrai. Ton Leftovers a été un succès, mais pas un si grand succès que ça. Mais sinon, je vois que
mais
il peut pas venir demander la lune là, pour un enfant de même. Mais ça a fonctionné.
Il pourra le faire pour son prochain projet parce qu'HBO lui donne carte blanche à 100%.
Ben avec ce succès-là, c'est sûr. Parce qu'il a pitché une affaire que moi, je considère qui est unpitchable.
Ah
une adaptation Watchmen, quand que tu peux pas gagner ton public à 100% avec une adaptation comme ça, surtout parce que c'est un livre qui est consacré.
Mais là, encore une fois, je tiens à rappeler, ce n'est pas une adaptation.
Oui,
c'est un prolongement et ça fait une grosse différence.
Oui, t'as raison.
Et là, justement, ben, ça, on en avait déjà parlé hors onde et tu l'as répété depuis le début. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié quand la série se dégageait de Watchmen ou faisait justement des
échos. Ouais.
Donc, là, justement, Looking Glass plutôt que faire revenir Rorschach. Le personnage de Lady Trieu qui est une extension de Zmandias, qui est un peu comme. Ben, en fait, là, c'est carrément sa fille biologique, mais qui elle aussi devient une self-made woman qui va faire son argent dans d'autres technologies. Il y a une forme d'actualisation qui était bien. Mais là, justement, le problème, justement, qui sent être une adaptation qui vient gosser, c'est justement cette idée-là de prolongement et de se réapproprier les mêmes personnages.
Quand t'écris la suite de ces personnages-là,
Et là, moi, en fait, ça, Jeremy Irons, ça faisait si longtemps qu'il avait tourné parce qu'il avait le goût de jouer, là. Le volume est à 11 tout
Chris,
le temps.
Oui.
Et ça, moi, ça, c'est une affaire comme quand j'ai regardé la série, j'étais avec quelqu'un qui venait de lire la bande dessinée. Puis j'ai dit ça, c'est vite. C'est sûr que c'est vite. Mais elle était comme, ouais. Mais moi, j'étais comme, là, ça n'a pas rapport. Comment le personnage l'interprète. Puis on spéculait sur cette possibilité-là. Puis je disais, ce qui te fait douter de la chose, c'est que le personnage est tellement cabotin. Est tellement cartoonesque que par rapport à ce qu'on voit dans la bande dessinée, qui est comme l'espèce de, tu sais, surhomme super posé, qui est cérébral, qui a tout calculé à l'avance, et qui là devient une espèce de vieux pépé gâteux. Ça, j'ai vraiment trouvé comme d'où est-ce que ça sort, comment est-ce qu'il est devenu comme ça. Ça, c'est une chose qui m'a dit, c'est. Ça dépasse le fait de l'appropriation, c'est vraiment. Non, j'ai même pas compris le personnage, mais l'avoir détourné complètement de son origine.
Moi, je le mets un peu... C'est drôle parce que Jeremy Irons, je le voyais comme s'il chantait dans la douche. Ouais. Tu sais, il y a une espèce de... Quand il est sur Terre, il est entouré de personnes, il considère tout le monde comme des inférieurs parce qu'ils ont un quotient intellectuel, parce qu'ils sont pas à sa vitesse, parce qu'ils comprennent pas, parce qu'il faut qu'ils expliquent tout le monde est lent autour de lui. Mais là, il est dans un château sur une planète tout seul avec ses propres clones qui peut décimer à volonté. Fait que je le sentais comme dans la douche. Je le sentais dans un appartement tout seul à comme bla 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 bla. Puis là, il n'y avait pas nécessairement besoin de tenir quelconque forme de
décorum.
Oui, exactement. Il est juste, je suis ici de mon gâteau. Ah non, pas de gâteau, tire le clone dans la tête, m'en sortir un autre, m'en mettre un canon, me le tirer dans...
Il y a quelque chose d'Howard Hughes.
Howard Hughes, c'est pas pire,
le millionnaire qui a bâti son empire, puis maintenant qui peut vivre parfaitement sa psychose en étant complètement isolé du monde.
T'sais, les canons à clone, c'était les catapultes à piano, là, tout ça était très comme... Ouais, c'est rich billionaire, mec.
Mais en même temps, c'est parce que là, on nous donne un personnage qui surjoue, qui a l'air d'être justement un peu failé, puis tu te demandes, ben là, est-ce quelqu'un qui a perdu la tête, qui est dans une asile, etc. Mais en même temps, là, encore une fois, moi, dans la lecture de la BD que je connais bien, où je savais que Ozymandias, pour ourdir son complot dans la bande dessinée, il avait mis ensemble des scientifiques et des artistes, etc. Ils avaient réuni sur une île déserte où là, il avait élaboré cette histoire-là. Je sentais bien l'idée que c'est une espèce de défi qu'il a où il est tenu captif et prisonnier, mais qu'à travers ça, il va trouver la solution. Donc là, quand il balance les cadavres pour former le mot Save Me Daughter, c'est comme, OK, ben, il est encore cet être très brillant, mais il est juste, c'est ça, là, un jerk insupportable, ce que la bande dessinée ne présentait pas du tout.
Ben ici, je ferai un parallèle avec Mad Max, tel qui est interprété par Mel Gibson et par Tom Hardy. Et quand on retrouve le personnage de Mad Max dans Fury Road, on sent là, hey, ça va pas bien parce que ça fait des décennies qu'il est seul dans le désert. Ouais. Donc justement, la solitude a eu un impact sur sa psyché. Et je pense que c'est du même ordre dans le cas d'Ozymandias. Il est devenu un clown de lui-même justement parce qu'il est tellement seul, puis tout ce qu'il a, c'est ses souvenirs, donc il a perdu
du moins, c'est que là, ce que tu fais, c'est essayer d'établir une cohérence à hauteur de fiction pour justifier ce que je considère être un traitement de merde du personnage, tu sais.
Mais c'est un dick dans Beyond Watchmen. Il a été écrit comme un dick dans Beyond Watchmen, Ozymandias, dans sa série à lui, là, qui a été illustrée par Jay Lee.
Ben, en fait, c'est vraiment plus dans sa prestance. Comme, parce que oui, là, dans la bande dessinée, c'est aussi un asshole qui se croit.
Ah, c'est vrai qu'on s'en ennuie de sa prestance. Ça, je suis d'accord.
Ouais. Non, il y a rien de royal. Il est
clownesque.
Il y a une couille qui sort de ses boxers un peu tout le long. Là,
non, c'est ça. Ouais. Et ça, donc, ça fait partie donc de... Et là, je pense que l'exemple le plus affligeant de, justement, quand je vous disais, les échos sont intéressants, les rimes sont pénibles un peu, c'est ce moment-là, donc, dans la bande dessinée, où Ozymandias va attraper au vol une balle qui est tirée vers lui, qui, là, va un peu jouer sur cette ligne mince de Ozymandias n'est qu'un simple, un peu une espèce de Batman, c'est un simple humain, mais il peut se battre avec des super-héros parce qu'il a les capacités, il a développé ses capacités jusqu'à l'extrême. On le voit faire ça à la fin de la série quand il vient pour s'en aller et que le garde qui dit « je vais tirer dessus » et là, il attrape la balle. Quand on regarde la scène dans le film, moi, j'étais comme « ok, c'est évident que c'est un hommage à la bande dessinée, mais quelqu'un qui aurait pas lu la bande dessinée qui voit ça et comme « qu'est-ce qui vient de se passer? » Ça n'a pas rapport.
Ouais, c'est vrai que ça lui donne des pouvoirs quand il n'en a pas. Puis dans le film de Snyder, il n'attrape pas la balle, il la contourne. Mm-hmm. Il fait une espèce de dévié par rapport à son corps, ce qui fait que tu comprends que c'est de la pure mathématique. Il prend la vélocité puis il la déplace. Mais ouais, c'est vrai que dans la série, ça fait... Ah, he had powers all along.
Puis quand parce qu'il y a un moment aussi dans une conversation dans les conversations avec Ozymandias vers la fin où là on revient beaucoup sur oui tu voulais mettre en place une utopie et là je me souviens pas c'est avec je pense que c'est avec les Détrieux ou non avec Dr. Manhattan qui revient sur le nothing ever ends. Pis ça j'étais comme c'était presque c'est une des répliques les plus intéressantes qu'il y a dans la bande dessinée. Et dire nothing ever ends tout en présentant une fin à la bande dessinée, c'était vraiment un choix. Une construction formelle très intéressante que là déjà faire une suite c'est là que moi je me suis dit, ils vont être obligés de choisir qu'est-ce qui s'est passé.
Ouais, ouais.
Donc là, déjà, c'est une espèce de...
T'as un piège là, là.
Ben, ça peut être perçu comme un sacrilège, et je trouve que la solution qu'a pris la série est très élégante, de dire le livre a été publié, mais personne n'y a cru. Mm-hmm. Sauf que l'accalmie mondiale n'a pas été pérenne.
Ouais, ça
j'étais comme, wow, ok, tu t'es bien débarrassé de cette question-là. Mais là, faire revenir Dr. Manhattan, faire revenir cette question de Nothing Ever Ends, c'est là que je trouve qu'il y a eu une espèce de ouf, t'aurais peut-être dû les laisser tranquilles.
Ouais, moi, j'ai vu ça comme une audace, justement, de ramener Dr. Manhattan, parce que s'il y avait le personnage qu'on disait, ils vont pas oser quand même, ou s'ils vont le faire, ce sera certainement pas de cette façon-là. Moi, ce que je m'attendais, c'est que, bon, je me doutais bien qu'il allait réapparaître d'une manière ou d'une autre, d'autant plus que dans la promotion de la série, avant qu'elle soit diffusée sur HBO, on laissait sous-entendre son retour, on nous montrait des plans très rapides dans les bandes annonces de Main Bleue à un bar, on disait, bon, ben c'est
il est central,
assurément
là.
Lui, même que je me... Oui, mais justement, c'est que là où ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui précède cède à l'arrivée de Dr. Manhattan dans la série Watchmen, c'est que malgré tout, il est omniprésent. Il est, l'impact qu'il a eu sur l'humanité est reconnu.
Le spectre de Manhattan est toujours...
Oui, oui, oui. Là-dessus, c'est là aussi qu'on pourrait établir un lien avec The Leftovers, c'est que l'événement qui a changé l'humanité dans Watchmen, c'est pas tant la pieuvre que Dr. Manhattan lui-même. Mm-hmm. C'est lui qui a apporté vraiment mais un changement dans la perception du monde que Dr. Manhattan existe.
C'est pour voir la face de Gabriel.
C'est parce que là, je vais revenir sur Dr. Manhattan.
Alors, moi, en tant que spectateur de la série, aussi que lecteur de comics, ce que je m'attendais, c'est que si jamais il intervient, ça va être un rôle un peu comme Superman à la toute fin. Il arrive, il résout tout, puis il repart. Merci, bonsoir. Mm-hmm. Et c'est pas du tout ça. C'est vraiment un... Oh, en fait, non, on vous a menti depuis le début.
Les batteries servaient à ça.
Ouais, exactement.
Mais c'est drôle parce que par rapport à Manhattan, qui est une des extensions qui est un peu malhabile, une des choses qui m'avait vraiment frappé, puis on en a pas parlé, puis je trouve ça vraiment... soit qu'on est hyper habile, ou soit qu'on l'a juste oublié. Il y a une en-tête d'un article qui a été publié vers la fin de la diffusion de la télésérie, qui disait... l'entête, je cite, « God is black and no one batted an eye ». C'est un article qui est publié par Ashley Reese. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, il y a un grand dieu omnipotent afro-américain ou afro-descendant dans la série. Mm-hmm. Mais récemment, maintenant que la série est sortie, pis c'est surtout autour de Manhattan et de Sister Knight, il y a un autre article qui a été publié celui-ci a été écrit par Amy A. Ongiri, qui est la directrice des Film Studies à Lawrence University, où elle dit... j'ouvre ça là parce que je veux vous entendre parler, c'est dans le magazine Black Film Market, l'intitulé c'est « The Marketing of Black Power and Black Rage ». Cette idée-là que Watchmen est une espèce d'exploitation de la colère afro-américaine sans véritablement offrir quoi que ce soit, parce que le seul personnage qui est impliqué dans cette colère-là, Sister Knight, fondamentalement, malgré que Manhattan est noir, mais Sister Knight, son statut est incertain à la fin. On ne sait pas si c'est une humaine ou on ne sait pas si c'est Manhattan.
Ouais. Je tiens à parler de la fin.
Je vous donne les dernières 10 minutes.
Je vais peut-être nuancer ce que je voulais dire par rapport à l'impact de la pieuvre, c'est que si on fait un autre parallèle, que j'espère ne sera pas trop maladroit, en disons l'arrivée de la pieuvre et le 11 septembre, c'est que 20 ans plus tard, finalement, dans le quotidien des Américains, des habitants de la Terre, l'existence de Dr. Manhattan a une plus grande portée que la pieuvre. La pieuvre, c'est un événement qui a eu lieu, qui a été marquant, de la même manière que le 11 septembre l'a été pour nous.
Mais Manhattan, c'est Dieu qui parle,
exactement,
qui marche
c'est
par nous.
C'est là où je voulais en venir.
Oui, mais là, OK.
T'as beaucoup de trucs à déballer,
Et là, la question de le traitement de la représentation du pouvoir noir dans la série, j'aimerais avoir le temps d'y réfléchir un peu. C'est une question extrêmement riche et délicate.
J'ai trouvé ça fascinant ça fonctionne d'un bord puis de l'autre.
C'est super intéressant, mais là, je me prononcerai pas là-dessus. Je vais juste le dire tout de suite. Je préfère rien dire et y réfléchir.
C'est une grosse parenthèse à ouvrir.
Et la question de la représentation des conflits raciaux dans la série est vraiment intéressante, et ça, c'est pas celle que j'ai le plus réfléchi.
Parfait.
Parce que moi, la question de savoir, ah oui, Dr. Manhattan prend une apparence d'homme noir. Mm-hmm. Disons que C'est qu'à partir du moment où il revient, pour moi, tout le reste est un peu disqualifié. Et je m'explique.
À partir de l'épisode 7, tu veux dire? Non, l'épisode 8.
8, c'est ouais, ça. Quand il revient, puis que là... Donc, dans la bande dessinée...
We're in fucking trouble.
non, c'est parfait.
Ce qui était intéressant dans la bande dessinée, c'est comment on voit progressivement ce personnage-là de Demiurge se détacher de son humanité. Mm-hmm. Et là, on comprend donc, à la fin de la bande dessinée, qu'il n'est pas intervenu lors de l'apparition du Squid parce que Ozymandias avait ourdi un complot pour le neutraliser. Mais même une fois qu'il constate ce qui s'est passé, il a dit « Ben là, c'est rendu votre problème. » Il devient non-interventionniste en disant « Moi, de toute façon, je vous trouve intéressant, mais j'ai « I got no skin in this game » parce que... »
Vous avez fourmis, puis...
C'est ça. Et donc, je m'en vais dans une autre galaxie. Et c'était une espèce de commentaire très intéressant sur... Tu sais, Superman, ce qui explique qu'il reste un serviteur de l'humanité, c'est que ses parents l'ont élevé au Kansas, etc., puis c'est un bon petit gars. Mais... une trajectoire différente aurait pu faire en sorte qu'il se détache complètement de l'humanité. Et ouais. Moi, j'ai trouvé que c'est une des propositions mm-hmm. intéressantes de justement, ben, le surhumain, est-ce qu'il reste humain ou est-ce que non, la partie super? Et là, Watchmen y répond en disant, ben là, quand tu deviens un démiurge, t'arrêtes de marcher parmi les hommes, tu t'en vas loin, là, dans l'espace. Quand on le fait revenir dans la bande dessinée, dans la série, il revient pour entrer dans un bar, pour parler à Angela Hubbard, pour des raisons.
C'est pas clair!
c'est pas clair. C'est qu'on le sait pas. Il y a aucun moment où on dit pourquoi. Et là, oui, dans la bande dessinée, on voit qu'il est tombé en amour deux fois avec des femmes. Mais là, après être parti, ben, ce qu'on nous dit vaguement, c'est que Dr. Manhattan est allé créer la vie sur une autre planète. Et que là, ça finit par l'ennuyer parce qu'il était mal à l'aise parce que.
Et d'ailleurs, il est pas allé très loin.
Non, mais ça, c'est l'autre chose.
C'est arrêté à Jupiter, puis non. Oh, ben, c'est correct, ça.
c'est ça l'autre chose qui était un peu un problématique. Donc là, on le fait revenir, et là, soudainement, il est comme, bon, ben là, je vais tout mettre en plan, mes projets de l'agrandissement cosmique, parce que je vais revenir sur la Terre et que je vais tomber en amour avec, donc, cette personne-là, et que ça va déterminer mes actions des prochaines années. Ah, je vois que je vais mourir, chill, c'est pas grave. Et là, en fait, mais non, parce que j'ai tout prévu. Premièrement, je me laisse embarrer dans cette cage-là. Même de cette cage-là, je suis capable, en passant par l'espèce de liquide à terre, d'intervenir. Mais je veux me laisser mourir parce que, encore une fois, raison. Mm-hmm. Et que là, il regarde, et justement, là, comme la femme qu'il aime, plutôt que lui dire, sais-tu quoi, je pense que je vais me pousser de la cage, on va pouvoir poursuivre notre relation. Il dit, je vais mourir en te disant, j'ai passé les 10 plus belles années de ma vie, ok, ciao, je me suicide. Parce que, raison. Mais non, attends, il est pas vraiment mort. Parce que, on se rappelle que le moment où il faisait son omelette, il a volontairement laissé sa femme pitcher des œufs par terre, dont un n'a pas cassé. Et il avait fait référence à ça plus tôt. Là, sur le coup, tu dis, waouh, c'est vraiment bien ficelé et bien écrit comme principe. Mais encore une fois, Dr. Manhattan, qui passe l'épisode précédent à tout dire en détail à sa femme, ne lui dit pas « By the way, je pourrais te passer mes pouvoirs quand tu veux. » Comme, mais on va attendre 10 ans que je fasse une omelette puis que je te donne un œuf.
Ouais.
Ça, tout ça, c'était un peu comme là, tu utilises ton démiurge pour faire une espèce de « Ooh, how look fancy smart I am. » Mais, et là, c'est vraiment une déviance majeure par rapport à la bande dessinée. Personnage de bande dessinée qui est comme « Les humains, vous êtes drôles, mais là, moi, je m'en fous de vous parce que je suis déconnecté. Bye-bye. » Et là, il dit « Donc, je vais faire le chemin inverse de neutraliser tous mes pouvoirs pour me consacrer à aller me faire tuer à Tulsa et en laissant derrière moi un œuf. » Ça, vraiment, j'étais comme « Ça a l'air smart parce que c'est comme... Il y a beaucoup d'éléments qui sont tissés ensemble pour faire quelque chose d'habile. » Mais quand tu dis « Ouais, mais quelle est la motivation sous-jacente derrière ça? »
Hop.
Là, c'est emoji, tu sais, shrug emoji, là. Ouais. Ça, c'était un peu malhabile.
Ouais.
Et là, je veux donc, et là, vraiment, c'est le moment de Gab est pas simplement déçu, Gab est un peu en colère. La finale. La fameuse fin ouverte. Je vais résumer très rapidement. Dans la bande dessinée, ce qui est super intéressant avec la bande dessinée, c'est que cette fameuse fin ouverte-là oppose la fiction de ce que Ozymandias a créé. Une fiction qui, sur le coup, oui, est troublante, mais qui devient un peu rassurante. Parce qu'on crée cet ennemi, cet ennemi cosmique inverse, ce tiers-là, qui fait en sorte que l'humanité se ligue pour la protéger. Ouais. Mais c'est une fiction. Alors que ce que nous présente Rorschach, c'est la réalité. une réalité qui est beaucoup plus dure à accepter. En fait, il faut déjà que tu crois que tout ça a pu venir ensemble et c'est une espèce de théorie de la conspiration. Mm-hmm. Mais il y a les preuves, ils ont réuni les preuves. Et donc là, c'est un peu la confrontation et l'épreuve des faits. Mm-hmm. Est-ce que tu préfères rester dans ta fiction où on a atteint un résultat qui est, selon ce que nous présente la bande dessinée, disons, les premières étapes menant vers l'utopie?
Oh, oui.
Ou est-ce que tu refuses d'atteindre cette utopie-là parce qu'on a une preuve irréfutable, disons, de la réalité?
Mm-hmm. Le mensonge qui rassure, la vérité qui dérange.
N'est-ce pas familier, Jean-Michel?
Eh?
Mais cette question-là, donc justement, qui est très... Et ça se termine... Watchmen avec donc le personnage qui dit I'll leave it entirely in your hands.
Mm-hmm. Ouais.
Donc là, on a une espèce de irrésolution. Et là, on est dans la projection et là, ça soulève des questions donc morales et on peut en débattre, etc. Dans la série, premièrement, il y a l'espèce de les gentils gagnent à la fin. Tous les méchants sont tués, neutralisés, mm-hmm. le complot arrivera pas. Ozymandias se fait arrêter, alors qu'on l'a vu arrêter une balle en plein vol il y a quelques instants. Là, il se fait assommer dans la tête parce qu'il a perdu ses super réflexes. Silk Spectre qui décide qui, pendant 30 ans, elle a juste rien dit, mais comme ouais, non, finalement, j'y ai pensé, puis là, oui, tu vas aller en prison. Ça, déjà, c'était dérangeant. Donc là, on arrive donc à cette fameuse fin ouverte. Ouh! Là, Angela comprend que son mari, récemment décédé, avait tout préparé ça. Il y a un œuf. Oh, peut-être que l'œuf contient le pouvoir. Je vais aller sur le bord de la piscine. Et il m'a dit, en fait, c'est important que tu regardes la piscine parce qu'il y a du foreshadowing. Il avait dit, ce moment va être important plus tard. C'est pour ça que j'ai envoyé les enfants se coucher dans un cinéma. Elle ouvre l'œuf. Elle le met dans sa bouche. Elle marche sur l'eau. Oh, on ne sait pas si elle a les pouvoirs ou pas. Fade to black. La question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça change qu'elle a les pouvoirs ou pas? Quelle espèce de réflexion ça va nous susciter?
Ouais.
Là, on est dans un rapport spéculatif. Elle pourrait avoir des pouvoirs et décider de les utiliser pour, justement,
ouais.
Rétablir...
tout ce qu'elle accusait Dr. Manhattan de ne pas faire.
Ouais. Ouais. Ben, pas elle directement, mais les gens dans la série qui disent Dr. Manhattan aurait pu faire plus avec ses pouvoirs. Ah, ça pourrait être ça. Peut-être aussi... qu'elle va juste ressortir de la piscine tout trempée parce que son histoire de l'œuf ne fonctionne pas. Il
mm-hmm.
n'y a pas de réflexion intéressante. Le fait qu'elle ait les pouvoirs ou pas, on peut justement jouer avec les indices que la série nous donne pour déterminer est-ce que c'est important ou non. Mais un peu, et là, parce que là, le fade to black de Irrésolu, c'est aussi... Je vois là-dedans une rime par rapport à The Sopranos, autre série importante de HBO. Et là, il y a beaucoup de gens qui s'interrogent sur la finale, à savoir est-ce que Tony se fait tuer ou pas.
Oh oui.
Et là, il y a des théories qui vont dans les deux sens. Pour moi, la question n'est pas intéressante de savoir s'il meurt ou pas. Ben, c'est-à-dire que c'est une question qu'on peut trouver intéressante, mais la question est-ce qu'on veut qu'il meure ou pas,
c'est ça,
est
c'est
beaucoup plus intéressante.
Il y a une raison morale. Est-ce que tu veux qu'il paye pour ses crimes ou qu'il s'en sorte et qu'il vive avec sa famille?
Et là, justement, la question, est-ce que Angela a ses pouvoirs ou pas?
Ça
comme je me rends compte que j'ai aucun... Ça ne me pousse vers rien. Donc là, justement, alors que moi, une des grandes réussites de Watchmen, c'est d'avoir produit cette fin ouverte-là très, très équivoque et qui soulève toutes sortes de questions, la série fait juste...
C'est pas fou. Ouais.
Qu'est-ce que ça change si Nora ment ou pas dans The Leftovers? Qu'est-ce que ça change? Rien. Ce qui a été fait, faut maintenant continuer.
OK, mais là...
Faut vivre sa vie. Je pense... Ouais.
Non, mais ça, c'est donc.
Let the mystery be.
Mais là, OK, du côté de Leftovers, encore une fois.
C'est
là,
pour ça quand. Non, mais quand t'élaborais sur le mensonge et la part de vérité, et que j'ai dit à Jean-Michel, c'est familier, hein, je faisais évidemment référence à The Leftovers parce que c'est la troisième saison, c'est le thème central. C'est pour ça que ça faisait sens thématiquement que Lindelof se dirige vers Watchmen.
Mais ça, encore une fois, je t'ai dit que c'est ton point de vue sur la série qui est informé par ça. Te donne une appréciation très différente de la mienne.
Oui, absolument.
Que moi, je te rappelle aussi que ben, je m'excuse d'avoir lu Watchmen comme étant quelque chose qui est en lien avec une autre affaire qui s'appelle mm-hmm. aussi Watchmen,
ouais,
qui a le même titre et le même logo. Donc là, j'ai pas ces informations-là. Mm-hmm. On n'aura pas le temps d'en parler,
non,
mais
non, absolument.
Toutes les informations qui ont été mises aussi sur le site web, en parallèle, un peu là, comme matériel transmédiatique par rapport à la série, ça aurait été bien de les intégrer peut-être un peu mieux ou de les garder de manière beaucoup plus étanche, donc pas nécessaire à la compréhension de la série. Mais là, justement, où peut-être qu'il y a un dialogue entre l'œuvre précédente de Lindelof et, je sais pas si j'ai mal prononcé son nom ou pas, où là, il y aurait peut-être un dialogue intéressant à faire, mais là, il y a un prolongement de Watchmen et c'est là que je trouve que la finale de Watchmen de la série est assez raté.
Mais la conclusion de l'émission, c'est que ce dialogue est intéressant. Ça a super bien fonctionné. Merci énormément de vous être retenu. Je vais partir en musique pour que vous puissiez vous lancer des fleurs ou des chaises. Mais merci énormément, Simon. Merci, Gabriel. C'était vraiment le fun.
Ça m'a fait plaisir.
Je vais l'écouter. On va l'écouter.